Mais donc pour rebondir sur ce que vient de dire Julien, je crois que je me suis posé un peu aussi la même question de ce que ça voulait dire la construction d'objets, et j'avais un peu les mêmes réticences en me demandant déjà si c'était pas un peu prétentieux de parler d'une construction d'objets que j'aurais réussi. Est-ce que qui en est juge en fin de compte, quand sait-on si un objet est bien construit, mal construit, etc. Et j'avais le sentiment que je comprenais mieux ce que signifiait la rupture avec le sens commun. Donc c'est peut-être plus ça dont je vais parler à propos de mon travail de thèse sur l'anglais. Donc il s'agissait de renoncer à l'illusion de la transparence de cet objet très évident du monde social qu'est l'anglais. Et cette critique des prénotions avait pour enjeu de déstabiliser, premièrement, les évidences communément partagées sur ce qu'est l'anglais, ensuite celles qui avaient cours dans l'univers savant, et celles, enfin, dont j'étais plus spécifiquement dépositaire en tant qu'angliciste de formation. Donc c'est un cas particulier de conversion. C'est plus souvent de la philosophie à la sociologie. De l'anglicisme à la sociologie, c'est assez rare et ça produit peut-être d'autres effets. Alors, ayant affaire à un objet dont je faisais partie, donc il fallait, comme toujours, surmonter les obstacles épistémologiques à la construction d'un objet sociologique et se livrer à une conversion du regard, mais dans ce cas particulier aussi et d'abord avec et contre mon habitus d'angliciste. Alors, l'ensemble des démarches de déstabilisation des évidences premières ainsi entreprises, il me semble que loin de constituer un simple préalable épistémologique, une formalité routinisée à accomplir avant de commencer mon travail de recherche, ça a constitué le cœur même des opérations de recherche et aussi d'écriture. Alors je détaillerai quatre démarches ou instruments de rupture qui m'ont permis de, si pour autant qu'on puisse dire que j'ai réussi, de substituer à des objets préconstruits un objet que j'espère un peu mieux construit. Donc premier instrument de rupture, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais si c'est instrument de rupture le terme pertinent, en tout cas la critique du langage et la lutte contre l'illusion nominaliste. Dans mon cas particulier, donc, je me suis interrogée sur ce qu'était que l'anglais. Donc, chacun sait ce qu'est l'anglais, donc, je disais l'illusion de la transparence. Donc, il apparaît a priori que c'est une langue, et je pense que jusque-là tout le monde est d'accord. Mais si la sociologie a toujours affaire à des réalités déjà nommées, je me suis efforcée de distinguer les sens les plus cristallisés de ce mot, donc dans le cas de l'anglais. D'apercevoir les signifiés distincts couverts par un unique signifiant. Donc en premier lieu, c'est une langue parlée par une communauté linguistique, on va dire que c'est le sens numéro 1. Sens numéro 2, une langue qui est en France susceptible d'être enseignée et généralement qualifiée par un adjectif qui se trouve être porteur de toute une vision du monde, donc langue vivante, par exemple, langue étrangère, langue moderne, langue pratique. On l'utilise moins ces derniers temps, mais il était très, très utilisé au XIXe siècle, donc des principaux qualificatifs utilisés depuis deux siècles. Et donc, dans ce sens, c'est une matière enseignée au sein du système scolaire, mais aussi par des entreprises privées. Et donc là, c'est encore un autre sens un peu décalé, l'anglais de Berlitz, de Wall Street, ou si vous avez pris le métro ce matin, l'anglais qu'on voit dans le métro, avec l'objectif d'inculquer la langue au sens numéro 1. Mais c'est aussi une discipline universitaire, sens numéro 3, parfois confondue avec la matière scolaire, sens numéro 2, notamment parce que la discipline sert la fonction objective de certifier les enseignants. Et l'anglais universitaire existe aussi par ailleurs sous deux formes, l'anglais langue, littérature et civilisations étrangères, LLCE, et de l'autre côté, langues étrangères appliquées, LEA. Alors moi, j'avais été fabriquée comme angliciste légitime, et j'étais particulièrement portée à ne voir dans l'anglais que la discipline universitaire la plus légitime. Je ne voyais pas l'anglais dans le métro, je ne voyais pas LEA, ça n'avait strictement rien à voir avec ce que je pensais être l'anglais. Donc, passer par une classe classe prépa, une ENS de banlieue, certes, mais malgré tout, les cours d'agrégation à Paris 3, tout était fait, me semble-t-il, pour que j'ignore l'existence des langues étrangères appliquées, par exemple. Et effectivement, je l'ignorais. Donc dire cela, au risque de révéler ma naïveté confondante d'alors, ou en tout cas une cécité spécifique, c'est reconnaître que mon habitus d'angliciste me portait, comme sociologue cette fois-ci, à prêter avant tout attention à l'anglicisme légitime et à sa seule différenciation interne, ou du fait de ma conversion de l'anglais à la sociologie, à la hiérarchie des disciplines, aux positions respectives des disciplines. Donc ce premier travail, qui est très basique, d'explicitation des signifiés d'un même signifiant, m'invitait à substituer à mon premier mouvement une autre interrogation sur les relations entre ces signifiés, à réfléchir au double principe de partition pardon, et de hiérarchisation symbolique qui émerge à travers ce que j'ai dit, matière scolaire, discipline universitaire, définition scolaire, définition appliquée commerciale, et puis à se demander ce que venait faire la langue, l'anglais comme au sens numéro un dans cet ensemble, aussi devenir sensible à l'étrangeté de certaines expressions, par exemple pourquoi l'anglais est-il une langue vivante ? À travers cette expression, que s'était-il agi de faire mourir ? Et c'est une question, par exemple, qui est devenue centrale dans une partie de ma thèse. Deuxième instrument de rupture que j'ai mobilisé, il consiste à objectiver l'espace des points de vue savants. Donc là, je serai un petit peu plus longue en distinguant trois démarches distinctes dans cette perspective. La première consiste à construire l'espace des problématiques agissantes. La deuxième, plus artisanale, prend pour objet les réactions spontanées des sociologues, qui pourraient être moi d'ailleurs, hein, c'est pas pour épingler les sociologues, mais voilà, les réactions spontanées autour de moi à mon sujet de recherche. Et puis la troisième relève d'une relecture critique des travaux existants sur l'objet initial de ma recherche pour en faire émerger les impensés. Alors la première démarche, donc pour soumettre à la critique les outils mobilisés pour construire les savoirs, pour essayer de mettre en évidence aussi ce qu'ils doivent à la position occupée par le chercheur dans le champ scientifique, j'ai d'abord cherché à décrire la façon dont, au sein de l'espace académique français, étaient ou n'étaient pas étudiées les disciplines, les savoirs, voire les langues, avec quels outils et dans quelles perspectives. Donc il s'agissait là de me doter d'une représentation rectifiée des problématiques agissantes, en essayant d'expliciter les impensés de ce champ de recherche. Il y a une expression de Bourdieu qui revient souvent sous sa plume, celle des cécités croisées, qui m'avait marquée, et je dirais rétrospectivement que j'ai essayé de trouver des dispositifs pour me contraindre à mettre en évidence ces cécités, à voir ces points aveugles, pour m'en prémunir. Et ces éléments de travail réflexif s'opposent, ça je le dis rétrospectivement, à mon avis, à deux modèles assez envahissants dans les débuts de thèse, peut-être moins les débuts d'articles, mais les débuts de thèse au sens de la thèse qu'on écrit. C'est d'un côté l'exposé narcissique des difficultés de la recherche, et de l'autre le passage académique obligé par l'état de l'art. Et donc, du coup, il me semble important de penser relationnellement la question de la construction d'objets par opposition à ces deux formes, ces deux formats routinisés d'introduction, de mise en récit d'une conquête de l'objet. Et donc, il me semble que ça doit se traduire aussi par un mode d'exposition différent. Donc concrètement, j'ai posé que les revues de sciences sociales donnaient à voir une approximation de l'espace de ces problématiques agissantes dans le champ scientifique, et j'ai analysé statistiquement le traitement des savoirs et des disciplines en sciences sociales dans les principales revues françaises de sciences sociales. Donc une population de revues pensées comme généralistes, ça allait de la Revue française de sociologie à Actes de la recherche en sciences sociales, des revues spécialisées comme Formation Emploi. avec un corpus d'environ 1400 articles parus depuis 1975 qui traitaient de près ou de loin les savoirs, les disciplines, des questions posées à l'école, aux professions, aux savants, aux disciplines, aux liens entre formation et emploi, l'usage des savoirs hors de l'université. Alors l'anglais était absent de ces 1400 titres, ce qui est en soi un résultat. Depuis, ça a un peu changé car j'ai publié quelques articles. Mais cette absence explique aussi que... c'est une marche un peu contrefactuelle que, enfin, je sais pas si le bon terme à utiliser, que j'ai adopté, parce que ça me permettait de me demander s'il avait été traité, comment l'objet aurait été traité aux différents pôles de l'espace ainsi reconstruit. Quels sont les domaines couverts, quelles sont les matières et les disciplines étudiées, les variations d'approche quand on passe d'un pôle de sociologue à un pôle d'historien intéressé par l'histoire sociale, un pôle universitaire, un pôle bureaucratique. Alors, j'ai pas le temps de présenter ici les résultats de ces recherches. L'enjeu, c'est plutôt ici de souligner un aspect de la démarche que j'ai suivie pour construire l'objet et les conséquences de l'analyse dans mon travail. Je pouvais alors me demander quels seraient les objets probables de recherche sur l'anglais publiés dans ces différentes revues et les manières de les penser. Donc, le résultat, ça faisait par exemple les politiques linguistiques dans la revue française de sciences politiques, l'anglais et les stratégies d'internationalisation des élites ou l'anatomie du goût angliciste dans Actes de la recherche en sciences sociales, les déterminants sociaux de la réussite en anglais et l'inégale distribution des compétences linguistiques des élèves dans la revue française de sociologie, l'institution de l'agrégation d'anglais au XIXe siècle et les manuels scolaires d'anglais dans Histoire de l'éducation ou dans Genèse, la place des questions linguistiques dans les préoccupations de la nébuleuse réformatrice de la Troisième République. Voilà. Alors, du coup, c'est un jeu qui a activé des dispositions cagneuses à produire des sujets de dissertation. Mais de façon plus créative, ça a stimulé mon imagination sociologique, un peu à la manière d'un exercice oulipien. J'étais aussi en mesure de situer et d'appréhender plus précisément dans leurs limites les manières de construire l'objet qui s'était le plus spontanément présenté à mon esprit. Donc j'étais portée, vous l'avez compris, à étudier la discipline de l'enseignement supérieur, à m'intéresser aux objets d'études des enseignants-chercheurs. Et cet intérêt n'a pas disparu, mais je l'ai réintégré dans un objet de recherche plus large. Deuxième démarche plus artisanale pour réfléchir à l'espace des points de vue savants ou ici semi-savants. Sur l'objet, prendre pour objet justement les réactions spontanées de certains sociologues à l'énoncé de mon sujet de recherche. Donc la construction du champ sémantique de la sociologie des savoirs et disciplines m'a permis de mieux comprendre aussi l'origine des questions et des remarques qui m'étaient faites à l'énoncé de mon sujet de thèse. Alors j'en styliserai trois principales. Donc la première, c'était un peu un cri du cœur. Tu vas pouvoir expliquer pourquoi les Français sont nuls en anglais ? La question provenait en fait de deux lieux différents, comme je l'analyse en détail dans ma thèse. C'est une interrogation assez classique des fractions de classe supérieures ou moyennes essentiellement, plus dotées en capital économique qu'en capital culturel, doutant de leurs propres compétences et appelant de leur vœu une réforme de l'enseignement scolaire de l'anglais. Et puis, de l'autre côté, il y avait le versant angliciste de cette interrogation sur la didactique, ma contribution de la thèse au domaine de la didactique. Petite parenthèse par rapport à la question que posait Julien, comment on saisit le sens commun ? Comment je savais que ça c'était quelque chose partagé seulement par les sociologues, mais plus généralement ? J'avais fait un petit comptage très artisanal pour le coup. J'avais compté sur Google à l'époque le nombre de fois où on trouvait l'expression « les Français sont nuls en » en anglais, en français, en mathématiques, en dessin, en philosophie, etc. Et les trois matières qui revenaient, ce sont celles que j'ai retrouvées ensuite tout au long de ma thèse de l'époque moderne, 19e siècle. C'est les Français sont nuls en anglais, en mathématiques et en géographie. Enfin, en géographie, c'est un peu moins le cas, mais bon, c'était les matières dont les réformateurs scolaires déploraient l'absence de maîtrise depuis plusieurs siècles, qui revenaient comme ça. Bon, c'est un petit comptage qui avait pas, que j'ai pas vraiment osé mettre, que j'ai mis finalement, mais parce que je savais pas si la méthode était acceptée, mais bon, voilà. Je passe un petit peu vite. Bon, au sein de la sociologie, ça, ce genre de questions s'inscrivait plus dans une tonalité réformatrice, avec une question de comment remédier aux inégalités socio-scolaires devant le maniement de la langue anglaise. En tout cas, c'était une question qui se posait en termes d'utilité de la sociologie. Alors, j'ai pris cette réaction profane si au sérieux que j'en ai fait la matière d'un long chapitre liminaire intitulé « Les Français sont nuls en anglais », ressort d'une déploration qui revenait, c'est pour parler de, du mode d'exposition, du coup prendre ça au sérieux au lieu de faire un chapitre socio-historique, faire un chapitre sur cette prénotion en guise d'introduction qui revient sur cette évidence. Et ensuite j'organise la confrontation du sens commun profane, d'une part, selon lequel les Français sont nuls en anglais, qui définit l'anglais comme une langue vivante, et de l'autre côté, le sens commun indigène des anglicistes, pour lesquels l'anglais est de facto l'ensemble des objets d'études structurés au sein de la discipline universitaire, des manières légitimes de les traiter. Et c'est un univers, cet univers-là, qui a, de ce point de vue, tous les airs d'un monde inversé, parce que la langue, la maîtrise de la langue, donc au sens numéro un, au sens de les Français sont nuls en anglais, c'est un droit d'entrée nécessaire, mais absolument pas suffisant, que les locuteurs natifs occupent dans cet univers une position très dominée, les objets, de même que les objets les plus liés à la transmission linguistique, comme la linguistique ou la didactique des langues, par opposition à la littérature, par exemple. Deuxième réaction spontanée, c'est important de critiquer la domination de la langue anglaise. On m'a parfois transféré des articles issus de la littérature militante du Parti communiste contre l'omniprésence des anglicismes. On m'a proposé de publier ma thèse sous cet angle de critique, de critique politique de l'impérialisme ou dans un versant scientifique de critique de l'impérialisme scientifique anglo-saxon. Donc je ne développe pas, mais on voit là aussi l'intérêt politique émerger sous un autre angle. Troisième réaction spontanée, c'est un sujet pas très sexy. Ou variante diplomatique, c'est pas facile de rendre intéressant un sujet si peu sexy. Donc, autrement dit, pour autant que j'y vois clair sur ce qui était sexy aux yeux de mes interlocuteurs d'alors, c'est difficile de passer pour intellectuel avec un tel travail sur une catégorie non prototypique des intellectuels. Travailler sur les philosophes, les écrivains ou les intellectuels serait sûrement plus rentable. Pas facile non plus de jouer aux gens sérieux, aux jeux sérieux des gens sérieux avec une catégorie pas non prototypique des experts et des hommes de pouvoir. Donc cette fois-ci, c'est pour toi, travailler sur les hommes de gestion, sur les sciences économiques et de gestion, les sciences politiques seraient plus appropriées comme candidate. Il me semble une manière d'entériner au sein de la discipline sociologique, ça venait évidemment pas de personnes qui sont dans la salle, cette réaction, une façon d'entériner la hiérarchie des objets. Les anglicistes sont au lycée, mais pas à l'avant-garde pour parodier un titre de Louis. Alors, de l'autre côté, les anglicistes paraissaient assez convaincus du caractère sexy de mon travail, à condition qu'ils puissent contribuer à la mémoire, donc à la légitimation de leur discipline. Je passe peut-être plus vite. Troisième démarche pour objectiver les préconstructions savantes sur mon objet. J'ai analysé les quelques travaux existants sur les langues, matières scolaires, disciplines, mais qui n'étaient pas faits par des sociologues, pour en faire émerger les impensés. Donc c'était des historiens ou des linguistes souvent qui étaient l'auteur de ces travaux. Le premier trait relève de l'illusion, mais bon, on pourrait trouver la même chose dans beaucoup d'autres travaux de sociologie des disciplines, pas linguistiques, mais on trouve ces mêmes traits par ailleurs. Donc le premier trait qui relève de l'illusion rétrospective, qui consiste à tenir le produit final, ici une discipline ou une matière scolaire, comme le point d'aboutissement d'une maturation ou d'un projet intentionnel. Donc on recherche tous les signes annonciateurs d'une discipline en germe qui ne demandait qu'à éclore, avec un ensemble de schèmes de sens commun, comme celui de la croissance qui irrigue l'histoire de ces disciplines, qui la discipline grandit, se renforce, s'étend. Le plan d'écriture est chronologique, il suit le rythme des victoires et des extensions disciplinaires. Donc, par exemple, Michel Espagne, qui est un germaniste, évoque, je cite avec mes mains, les difficultés considérables qu'ont eu les langues vivantes pour se faire une place, le territoire qu'elles ont dû conquérir dans une lutte inégale pour ne pas dire sans espoir, face à l'inertie, à la résistance de la modernisation, il s'agissait de faire sortir du néant un enseignement nouveau. pour l'historien Paul Gerbeau, quand ce ne sont pas les professeurs de langue qui triomphent, c'est la langue anglaise en personne qui souffre de la méfiance atavique des humanités classiques, mais n'en continue pas moins de se développer. Il y a une focalisation ensuite sur les enseignants de langue et leur sort, qui renvoie les déterminations sociales de la mise en place d'une discipline à l'anecdotique. L'accent mis sur les territoires de la discipline ou du système scolaire qui empêche la prise en compte des intérêts sociaux qui déterminent les transformations scolaires. Et puis, donc ça a pour corollaire l'écriture d'une histoire interne des scissions, l'émergence de nouveaux champs d'études, la parthénogénèse des disciplines, les créations de chaires, voilà, avec des fonctions hagiographiques ou agonistiques qui sont servies par ces écritures de légitimation, réhabilitation, dénigrement des disciplines proches généralement. On pense aussi que les sources de la discipline se trouvent dans l'histoire, dans l'univers académique. Donc on fait la sociologie de l'institution d'un savoir uniquement à partir des membres de la discipline, de leurs discours, de leurs bulletins, du ministère de l'Éducation nationale, des archives des institutions d'enseignement, comme si la discipline était le produit unique du travail des enseignants et de leur interaction avec le ministère de l'Instruction publique. Je ne sais pas si j'ai encore...
J'ai encore
un peu de temps.
7 minutes.
Okay. Donc, la reconnaissance injustement refusé à l'origine aux professeurs de langue devient le principal motif narratif. Les langues sont identifiées à leur discipline scolaire, donc l'anglais, l'allemand, et plus précisément encore aux enseignants des institutions publiques. Et donc ça conduit à ne pas interroger la domination historique d'une forme spécifique prise par l'enseignement des langues, les disciplines scolaires ayant obtenu le monopole, du moins provisoirement, de la transmission légitime des langues dites vivantes. Et ce monopole est incarné à partir de la Troisième République par un corps centralisé chargé de la collation des titres sur un marché national unifié. Encore un autre trait, l'allemand savant, hypertrophié, est constitué en paradigme des langues étrangères. Et il est uniquement étudié sous l'angle de sa participation à la philologie et des transferts culturels. Donc tout un tas d'autres usages qui sont beaucoup plus centraux en fait dans la scolarisation, la transformation en matière universitaire et scolaire de ces langues sont passés sous silence, comme les usages militaires et commerciaux, mais aussi, et c'est très important, les usages mondains hérités de la cour ou les usages politiques, toute l'histoire du libéralisme. Et donc, voilà, l'enjeu, en faisant ce travail, bon, ce n'est pas d'épingler Michel Espagne, que je ne connais pas, etc., mais d'arriver à voir quels étaient les travers dans lesquels je risquais de sombrer en tant qu'ancienne angliciste portée à faire l'histoire de ma discipline et de ses d'une discipline dominée, d'autant plus donc qui pourrait un peu régler ses comptes avec cette domination de la discipline par rapport à l'allemand peut-être comme angliciste et puis ensuite plus encore par rapport aux autres disciplines de lettres par exemple. Donc l'enjeu c'était de se déplacer d'un pas par rapport aux intérêts corporatifs des entrepreneurs de mémoire disciplinaire, de ne pas postuler la nécessité intrinsèque du progrès des langues et donc essayer de mettre au jour les conditions de possibilité pour qu'advienne l'enseignement des langues vivantes dans une forme historiquement variable et pas selon des méthodes en progrès, par exemple. Il y a tout un tas d'articles qui sont sur le progrès des langues, des méthodes de langue. Voilà. Troisième stratégie de recherche, cette fois-ci, je serai beaucoup plus brève sur les deux derniers points. Formuler les unités d'analyse en fonction d'interrogations sociologiques. Je ne sais pas si je serai très claire sur ce point, mais il s'agissait de récuser l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule unité d'analyse pertinente, l'anglais, à tenir tout au long de la recherche. Je me suis efforcée de formuler plus précisément de quel ensemble de phénomènes l'anglais était solidaire. Et l'ensemble de phénomènes dont l'anglais était solidaire était variable selon la question posée. Donc, je vais donner deux exemples. S'agissant premièrement, d'analyser la contribution des matières scolaires à la promotion d'un type d'homme dont l'éthos commerçant correspond à celui des fractions de classe qui luttent à partir de l'époque moderne pour l'accès au champ du pouvoir et qui travaillent à transformer l'école à leur image, à leur avantage. L'anglais n'est qu'un cas particulier des langues vivantes. Et les langues vivantes ne sont qu'un cas particulier des matières utiles ou antiscolaires dont font partie les mathématiques, le calcul, la géographie, car elles apprennent à sortir de l'école. Et c'est cet ensemble de matières qui constitue l'unité d'analyse pertinente. Elles sont promues pour leur contribution au développement du goût de l'action, pour leur opposition au latin et à la rhétorique, les matières pensées comme contemplatives. Et donc ça n'a aucun sens, en fait, d'analyser que l'anglais quand on se pose cette question-là. Et dans le discours des acteurs qui luttent pour promouvoir ces matières-là, l'anglais n'est jamais cité isolément. Voilà. Deuxième cas de figure, s'agissant du capital symbolique associé à la langue anglaise, à sa littérature, aux usages mondains qui en sont faits et que j'ai étudié par exemple en regardant la présence de l'anglais dans « À la recherche du temps perdu », l'unité pertinente, cette fois-ci, ce n'était pas l'ensemble des langues vivantes, ce n'était même pas une langue vivante, il ne s'agit pas d'une langue vivante dans ce cas-là, l'anglais, mais la langue anglaise comme dimension d'un bien symbolique que j'ai appelé les choses anglaises, un ensemble d'éléments parmi lesquels on trouve la langue. Mais il y a aussi le fait de corner des papiers parce que c'est une pratique anglaise, tout un tas de choses qui relèvent de la valeur symbolique des choses anglaises. Et donc voilà, c'est pas la même unité d'analyse qu'il convient d'avoir. Voilà pour ce troisième point. Et le dernier instrument de rupture, je serai rapide parce que sinon il faudrait que je parle de l'ensemble de la thèse, c'est la reconstruction de la genèse ou la méthode génétique. Elle permet de distinguer les causes efficientes qui ont imposé les fonctions sociales qu'une institution remplit aujourd'hui, de mettre au jour les tensions qui en sont constitutives. Donc là, une citation de Bourdieu dans Esprit d'État. Il n'est pas d'instrument de rupture plus puissant que la reconstruction de la genèse, en faisant ressurgir les conflits et les confrontations des premiers commencements, et du coup les possibles écartés, elle réactualise la possibilité qu'il en ait été, qu'il en soit autrement, et à travers cette utopie pratique, remet en question le possible qui, entre tous les autres, s'est trouvé réalisé. Donc j'arrive à la fin de mon temps de parole, je ne développe pas, mais c'était initialement conçu comme un instrument de rupture préalable et finalement ça m'a occupé tout au long de la thèse. J'avais pas du tout prévu de faire une thèse de sociologie historique. Finalement, ce travail de construction d'objets m'a conduite à faire une autre thèse que celle dans laquelle je croyais m'être engagée. La thèse initiale que j'avais commencée, c'était bien celle de l'anatomie du goût angliciste, donc qui est devenue un passage de 30 pages dans le chapitre liminaire de ma thèse, en décrivant les formes de l'anglais et la manière dont cet objet du monde social s'offre aujourd'hui à la perception de groupes différenciés. Mais les trois parties de la thèse suivante sont, elles, revenues sur la genèse historique de cet objet du monde social.